un espace physique macrom.
Exactement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore cette notion.
C'était que le temps.
Exactement, c'était que Dieu. Ah. Abstrait, le temps, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui est c'est une notion qui est invisible. Donc c'est la notion, c'est spirituel le temps. C'est la notion, il y avait uniquement Dieu et Israël. Le rapport, la relation Dieu-Israël, avec le Matan Torah, etc. D'accord ? Et déjà, avec le Matan Torah, comme on va le voir, il commençait à y avoir un petit peu de cette notion-là de Dieu dans ce monde. Comment ça ? Vous savez, les Goïms, ils ont piqué toutes nos fêtes. Vous savez ça, Purim, c'est Mardi Gras. Pour l'Église. Pessah, c'est l'agneau pascal, machin, Pâques, et l'œuf, le fou, tac, etc. Et l'œuf de la poule, d'accord. Et de la cigogne, d'accord. Et Shavuot, c'est l'ascension. L'ascension, c'est celui qui est l'ascenseur, quoi. Il a pris l'ascenseur, il est. D'accord, c'est l'ascension. Nous, Shavuot, c'est Vayered Hashem à la Sinaï. Ils ont piqué la même, ils n'ont pas piqué le même esprit, ils ont piqué la même fête. Mais non, ils n'ont pas piqué l'esprit. L'esprit, ils l'ont laissé de côté. L'esprit, c'est quoi de Shavuot ? Le don de la Torah. C'est Dieu qui descend à l'Har Sinaï. Ça commence comme ça, la Aseret HaDibrot. Va Yered Hashem à l'Har Sinaï. C'est Dieu qui descend sur l'Har Sinaï. Donc, si on commence à comprendre, mais c'était à 10 Tfarim au-dessus de l'Har Sinaï. Il n'est pas touché l'Har Sinaï. Déjà, on commence à comprendre cette notion que c'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est Dieu qui veut rentrer dans ce monde avec l'homme. Oui, c'est ça l'esprit de Shavuot. Donc déjà, ils ont commencé à comprendre. Et quelques mois plus tard, ils ont fini par inaugurer donc un Mishkan, qui est l'endroit, Mishkan Hashem, connais-nous Yadera. Nos mains ont fabriqué une résidence pour Dieu, pour faire comprendre justement que le monde est fait pour être sanctifié. Vous voyez, c'est assez intéressant. Mais j'avance parce qu'il y a tellement de choses à dire, et tellement de choses à comprendre. Donc, pourquoi Bayom Hashemini? Pourquoi Bayom Hashemini le huitième jour? On a posé la question. Il y a les sept fois où Moshe Rabbeinu a monté et démonté. Et enfin, le huitième jour, enfin, il monte, il ne redémonte pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le monter sept fois et le redémonter? Et la huitième fois, le monter pour de bon? Mais à quoi il joue? On joue au montage, au Lego ou quoi? D'accord? Pour Moshe Rabbeinu, c'était comme un Lego, c'était facile, c'était miraculeux. Mais en tous les cas, c'est cette notion-là qu'on nous donne dans la Torah, qu'il a monté sept fois, et que la huitième fois, il est démonté, et la huitième fois, il n'a plus redémonté. Pour comprendre ça, on va lire un passage de la Torah. Mais je vous dis tout de suite, ce passage de la Torah qu'on va lire, et je vous le dis sans exagérer. Franchement, des fois, j'exagère un peu quand je parle, pour être sûr que vous comprenez le sens parfois. Vous savez, c'est marqué comme ça que lorsqu'on veut que nos talmidim comprennent au moins 20 ou 30 ou 40%, il faut leur enseigner à 100%. On est sûr qu'il reste 20 ou 30, 40%. D'accord ? Donc là, je vous dis à 100%. Là, c'est juste. Absolument juste. Ce passage que nous allons lire, c'est le Ari HaKadosh qui le dit, c'est pas moi, c'est le Ari HaKadosh qui le dit. Toute la Chokhmat HaKabbalah est basée là-dessus. Toute la sagesse de la Kabbalah qui fait des... Toute la chorma et toute la profondeur et la merveille de la Kabbalah est basée sur ces quelques psukim que nous allons lire. Et ce qu'on va lire, vous allez tout de suite voir la symétrie, tout de suite. Vous n'allez pas la comprendre tout de suite. Vous allez la percevoir. Mais vous allez la comprendre vraiment à fond dans quelques instants. On va lire ce passage et vous allez vous-même me dire quel est le rapport. Prenez Parashat Vayishlach. Je vous dis la Kabbalah. Toute la Chokhmat HaKabbalah se base là-dessus. Donc, dans Parshat Vayishlach, à la fin de Parshat Vayishlach, une fois je vous en ai parlé rapidement comme ça, mais je ne me suis jamais arrêté sérieusement. Dans la fin de Parshat Vayishlach, on cite les rois de Edom. Ne perdez pas la page de Shmini, on reviendra. La Parashat Vayishlach, page 88 dans Bereshit. Page 88 dans Bereshit. Ve'ele Amelachim, voici les rois, Asher Malchou, qui ont régné, Be'eretz Edom. dans le pays de Edom, Lifne Meloch Melech Livne Israël, avant même que règnent les rois d'Israël. Donc là, ça va, la Torah va nous annoncer les rois jusqu'à David Améler, qui a eu chez Edom, chez Esav. Elle nous dit, voilà, le premier, Baimloch Ve'edom, Bela ben Beor, Bela, fils de Beor. Les Shemiro d'Inahava, sa ville, c'était d'Inahava. Mais bon, je vous dis tout de suite, chaque mot, chaque lettre, elle pèse, on ne peut pas s'imaginer combien ça pèse, on ne peut pas. Mais faisons les choses à notre portée, simplement, donc comme d'habitude, d'accord ? Et donc, le premier roi, Bela ben Beor, Veshem Hiro, est le nom de sa ville, Dinahava. C'est Dinahava. Vayamot Bala. Bela. Donc, le premier roi, il meurt. D'accord ? Vayimlor Tartav Yovav ben Zerach mi Botsra. Va régner à sa place. Tu vois ou pas, Mir ? Qui va régner ? Yovav ben Zerach mi Botsra. Yovav, fils de Zerach de Botsra. Vayamot Yovav. Yovav meurt. Hein? À son tour. Donc maintenant on va passer au troisième roi. Vayamot Yovav. Vayimlor Tartav Khusham Eretz Atemani. Et va régner à sa place Khusham de Eretz Atemani. Très bien. Passons au quatrième roi. Vayamot Khusham. Khusham meurt. Vayimlor Tartav Haddad Ben Bedad. Va régner à sa place le quatrième, donc Haddad Ben Bedad. Amaket Midian Bis de Moab, qui a frappé Midian dans les champs de Moab, donc à l'époque de Moshe Rabbeinu. C'est celui qui a vécu à l'époque de Moshe Rabbeinu. D'accord ? Veshem Hiro Avit. Et le nom de sa ville, c'est Avit. Qui est cité plus tard dans les conquêtes d'Israël. Vayamot Hadad, Vayimlor Tartav, Samla, Mimasreka. Va mourir Hadad et va régner un cinquième roi qui s'appelle Samla de Masreka. Vayamot Samla. Samla va mourir. Et enfin, le sixième roi va venir. Vayimlor Tartav, Shaul, Mechovot, Anaha. Va régner Shaul de Chovotana. Vayamot Shaul, oui, va mourir Shaul, le sixième roi. Va Yimlor Tartav, Baal Hanan Ben Achbor. Va régner à sa place Baal Hanan Ben Achbor. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on doit remuer en disant tous ces noms là-haut ? Vayamot Baal Hanan Ben Achbor. Baal Hanan Ben Achbor va mourir, le septième roi. Va Yimlor Tartav Hadar. Va régner à sa place le huitième roi, qui est Hadar. Pardon ? Le huitième roi, tout à fait, qui est Hadar. Veshem Hiro, Pa'u. Et le nom de sa ville, c'est Pa'u. Veshem Ishto, et le nom de sa femme, Me'etav El, s'appelle Me'etav El, du plus beau de Dieu, si on traduit le mot. Hein, c'est un joli nom, hein, Me'etav El. Voilà. Bat Matred, fille de Matred, Bat Mezahav, petite fille donc de Mezahav. On dit pas qu'il est mort.
On dit pas qu'il est mort, mais c'est le seul qu'on dit sa femme.
Et c'est le seul qu'on dit sa femme. Vele, Shemot, Taloufé, etc. D'accord ? Donc nous citons ici huit rois de Edom. Les sept premiers rois de Edom se sont succédés les uns après les autres. Et la Torah nous précise qu'ils sont morts. Et voilà pour le huitième roi de Edom, nous disons qu'il s'appelle Hadar. Il était marié avec une femme qui s'appelait Etabel, d'accord ? Et on ne nous dit pas qu'il est mort. Dit le Ari HaKadosh, pourquoi ? Qu'est-ce qui se cache à travers ce... D'abord, on va dire notre fidèle Baal HaTurim. On a l'habitude de voir le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim nous dit, pourquoi est-ce qu'on cite le nom de la femme du 8e ? Pourquoi est-ce qu'on cite le nom de la femme du 8e ? Et le Baal HaTurim nous répond, une réponse qui est à peu près évidente. Bien. Hein ? Non ? Non. Le Baal HaTurim nous dit simplement, je vous le dis, hein. Baal HaTurim qui a été écrit à l'âge de 13 ans, ça vous dit quelque chose ? La grandeur d'un... On s'imagine un petit peu la grandeur de ces hommes-là, à l'âge de 13 ans. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit... Vaishla. Donc, Veshem Ishto, Me'etav El. Maskir Shem Ishto, dit le Baal HaTurim. Là, on va citer le nom de sa femme, alors qu'on a cité le nom d'aucune femme, d'aucun roi, des sept rois qui ont précédé. Melamed, c'est pour nous apprendre, Sheumlach Aliada, qu'il a pu être nommé, il a pu régner Aliada grâce à elle. Shaita bat gedolim ve ashirim, parce que c'était une fille de grands et de riches, de nobles. Donc c'est grâce à elle, c'est grâce à sa femme qu'il a pu installer son règne, son royaume. Donc c'est pour cela qu'on a cité le nom de sa femme, parce que tout ce que tu as eu, c'est grâce à ta femme. Les autres, ça n'a pas été le cas. D'accord ? Ça, c'est ce que le Balatourim nous dit. Le huitième était marié. Les sept autres, qu'est-ce qu'ils étaient ? Nous dit le Ari HaKadosh, et là, donc, je m'arrête un petit peu et je développe. D'accord ? Vous prenez bien. Pourquoi sept rois et le huitième roi ? Sept rois, quand je vous dis le chiffre sept, vous allez me dire quoi ? Hein ? Et encore, plus profond.
C'est la nature.
Plus profond. Les sept séphirot. Qu'est-ce que sont les sept séphirot ? Les sept séphirot, ce sont les sept manières que Dieu se manifeste dans le monde. Il n'y a pas d'autre manière. D'accord ? Ou quand de même, un homme, quand il fait quelque chose dans sa vie, dans le monde, il est en train d'agir, il est en train de faire l'une de ces sept dimensions, de ces sept midot, de ces sept mesures-là. C'est l'une des sept. Ou il est en train de faire la bonté, précède, ou il est en train de faire la justice, la goura, ou il est en train de faire quelque chose au nom de Emmet, la vérité, ou il est en train de faire au nom de la victoire. Le monde, c'est un combat, ce monde. D'accord ? Un combat qu'il faut gagner. Ou il est en train de faire une louange, c'est-à-dire il est en admiration, c'est tout ce qu'on admire dans la vie, dans le monde. Ou, ça c'est Hod, ou il est dans le Yisod, dans l'équilibre, dans la stabilité, ou il est dans le malhout. D'accord ? Il n'y a pas d'autre domaine de manifestation. C'est-à-dire, vous réfléchissez, vous êtes dans l'un des sept actions qu'on peut faire. Toutes les actions qu'un homme peut faire, elles se partagent dans ces sept domaines. Il n'y a pas d'autre. Tout s'inclut dans ces sept domaines. D'accord ? Alors maintenant, ça s'appelle les sept séphirot. Dieu aussi, quand il a créé ce monde, il se manifeste dans ce monde-là. D'accord ? Une de ces sept manifestations. Bon. Maintenant, ce qui est dans le positif existe dans le négatif. C'est-à-dire que on peut faire la bonté, mais une bonté au nom de la bonté, de l'idéologie de la bonté. Que de la bonté, mais que de la bonté, c'est pas bon. C'est pas bien. D'accord ? Aimer, on peut aimer même ce qui est pas bon. C'est pas bien. Donc, où on est dans la sphira kdosha et on aime ce qu'il faut aimer, où on est dans la sphira aussi de chesed. On est toujours dans cette sphira, mais celle qui est dans le côté de Esav. C'est ce qu'a dit Esav à Yaakov. Il a dit, Elcha venelecha negdecha kenegdecha. Viens, je veux toujours marcher avec toi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? En disant, il aime. Je veux marcher avec toi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Chachami nous disent, c'est-à-dire, je vais être opposé à tout ce que tu fais dans ta vie. Tu fais quelque chose, je serai à côté de toi, mais dans l'opposé. Zélo Madze, un en face de l'autre. Elchan et Nekdecha, quand il a rencontré Yaakov et qu'ils sont séparés, il a proposé, laisse-moi, je vais aller avec toi. Qu'est-ce que je vais aller avec toi ? Je vais aller contre toi. Je vais aller, tu vas, à chaque fois que tu feras quelque chose, tu trouveras l'opposition en face. Ce sera moi. C'est ça qu'il lui a dit. Donc, quand il y a du chesed que Yaakov veut faire, il y aura le chesed de Esav. Quand il y aura la justice, il y a la justice, qui est, vous voyez, la bonne justice, mais il y a aussi des fois les préjugés qu'on a, qui sont faux, mal juger une personne, s'empresser de juger une personne, etc. Donc c'est, on se conduit dans la justice, mais de façon négative. Il y a le émet, la vérité, mais est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire ?
Hein ? Le média, en fait.
Quand Beth Hillel commence à chanter Kala na'ava chassouda devant une Kala, qu'elle est belle, qu'elle est chassida, Shabbat lui a dit, oh, ici elle n'est pas belle. Donc, et Ketsad Meragdin l'ifne à Kala. Comment est-ce qu'on danse? Qu'est-ce qu'on dit quand on danse devant une Kala? Beth Shammai et Omri, Beth Shammai, ils disent Kala kemo shehi. La Kala comme elle est. Belle, belle, moche, moche, comme elle est. Beth Hillel dit non, Kala na'ava chassouda. Il faut dire Kala qu'elle est pieuse et belle. D'accord ? Et Beth Shammai lui a dit, mais si tu mens, si elle n'est pas belle, compliqué. On dit une Kala, on dit qu'elle est. Si son mari l'a trouvée belle à ses yeux, c'est qu'elle est très belle. D'accord ? C'est ça qu'on vous dit grâce aux yeux de ton mari. Donc, vous voyez, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Donc, c'est aussi, ça c'est Tiferet, c'est Emet. Donc, vous voyez, on peut être ou bien dans la sphira de Gdusha, ou dans la sphira de Sitra Achara, de la Toura. Ça dépend. Eh bien, Rabotai, les sept rois qui ont précédé ce huitième roi représentent les sept séphirotes, dit le Harakadosh. Toute la Kabbalah est basée là-dessus. On a lu le passage où toute la Kabbalah est contenue dans ce passage-là. Les sept rois que nous avons cités correspondent aux sept séphirotes, mais dans le négatif, dans le mal. Dans le mal. Pourquoi une séphira peut être dans le mal? Je vous expliquer pourquoi, c'est simple. Quand je suis dans le chesed, dans l'idéologie du chesed, dans l'idéalisme du chesed, pour moi, il n'y a que le chesed dans le monde. C'est un chesed célibataire. Il est tout seul. Il n'est pas avec la justice, avec la rigueur. Bonté, bonté, rien que bonté. Tout n'est que bonté. Aimez-vous les uns les autres. Dieu vous aime, je vous aime. On s'aime. D'accord ? Il n'y a que ça. Eh bien, on tombe dans l'amour qui n'est pas bon. Parce que on a l'idéal, c'est l'amour, seul. Seul, célibataire, elle est seule. Stérile. Vous avez la Gvoura. La Gvoura, seul, au nom de la Gvoura et de la justice, on devient un Allah au Kouba. On devient un fanatique. C'est vrai ou pas? Je n'ai que la justice, je ne veux que la justice. Et attends, il y a la justice, il y a aussi la miséricorde. Mélanger avec le Tiferet. Le Emet, je ne veux que le... Au nom du Emet, tu vas détruire le monde. Si tu veux que le Emet, tu vas détruire le monde. Des fois, il faut savoir accepter des situations qui sont dures, et qui sont malheureuses, mais qui sont dures. Mais il faut les accepter. Qu'est-ce qu'on préfère? Une guerre mondiale avec la Russie, ou alors un problème avec la Crimée et la Russie? Qu'est-ce qu'il faut dire la vérité? On préfère que... Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? La raison du pour est toujours la même. C'est moche, c'est pas bon, c'est pas bien, mais il faut savoir... Savoir comprendre le moindre mal. Donc, vous voyez, donc, la vérité et la justice, c'est quelque chose de très relatif. Mais si je suis un idéologiste, un idéologue de la Gvoura, de la justice, ou du Emet, je détruis le monde. Vous voyez? Donc, tant que ça reste seul, mais lorsque ces sphirotes-là rentrent dans le monde et s'intègrent dans le monde, elles s'associent dans le monde. Là, c'est viable. C'est-à-dire que, je vous explique quelque chose. Qu'est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce que c'est la femme? L'homme, c'est l'idée. L'homme, il a l'idée. Le Maharal, il dit en deux mots, qui est très compliqué, mais il faut comprendre pour lire beaucoup de Maharal. L'homme, c'est le chomer, c'est la matière, et la femme, c'est la tsura, c'est la forme. L'homme, c'est le chomer, c'est la matière, et la femme, c'est la tsura, c'est la forme. Qu'est-ce que ça signifie? L'homme, il apporte la matière, il apporte l'idée, il apporte le projet, il apporte l'idéal. Et la femme le réalise. C'est comme ça que ça se passe. La femme, elle réalise l'idée, l'idéal de son mari. Vous savez que lorsque un jeune homme et une jeune fille se rencontrent pour faire une guicha, pour se marier, de quoi ils parlent? Du beau temps, de quoi ils parlent? Des vélos, des... avions, de quoi ils parlent? Ils vont parler de qu'est-ce que l'homme il a comme idéal. Si elle aussi elle a le même idéal, ils peuvent se marier. Si elle n'a pas du tout le même idéal, il vaut mieux qu'ils arrêtent tout de suite. C'est ça qu'on voit, c'est ça qu'il faut chercher. Est-ce que tu as le même idéal que moi? Est-ce qu'on va dans le même sens tous les deux? Après, tout s'arrange. Voilà, c'est comme ça qu'on voit dans une guicha. C'est ça qu'il faut discuter. Bon. Maintenant, sans la femme, l'idéal de l'homme ne peut pas se réaliser. L'homme, il apporte l'idée. L'homme, c'est le yud. Ish, yud. L'homme, c'est le yud. C'est la graine. Le yud, c'est la graine. D'ailleurs, regardez, le yud, il ressemble à un spermatozoïde. Il ressemble à une graine. Le yud, dommage. C'est comme un yud. Et c'est la graine. C'est l'idée. C'est l'étincelle. Le yud, c'est l'étincelle. L'étincelle, la lumière, l'étincelle. L'homme, il vient avec ça. Seulement, il faut réaliser cette idée, ce projet. Qui c'est qui l'aide à le réaliser? Comment il peut réaliser ça uniquement en se mariant? C'est la femme elle est pragmatique, elle est olamazé, c'est le hé. La femme c'est le olamazé. Olamazé nivra behé, behi baram. Le hé dans la Torah est écrit en grand. Lorsque Dieu a créé, behi baram, c'est marqué en grand hé. Tout le monde se demande, mais Pourquoi elle n'a pas écrit la Torah et la même mesure que les autres lettres? C'est parce que Dieu a créé, il a fait ressembler le monde au Hé. Le Hé, la lettre Hé. Et le Hé, c'est la femme, le féminin. Isha. Ish, le Yud, c'est l'homme, et c'est la femme. Donc l'homme, c'est l'idée, c'est l'étincelle, c'est la graine, c'est l'idéologie, c'est le projet. D'ailleurs, le projet, c'est le futur. Le futur en hébreu, c'est par la lettre Yud. Lettre Yud. Pour rendre un verbe futur, il faut marquer un Yud. Ochel, Yochal. D'accord? Tout ça, il faut mettre un Yud. Donc le Yud, c'est le projet. Donc l'homme, il vient avec un projet, avec un idéal, avec une idée dans la vie. Et s'il veut réaliser son idéal, son projet, son idée, il faut quelqu'un qui peut concrétiser cette chose-là. Et c'est la femme, il ne peut le faire qu'avec sa femme. Donc, c'est marqué Vayamot sur chacun des Melachim, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Ils étaient célibataires. Le huitième, la Torah, lui, il était marié. C'est pas marqué Vayamot. Pour faire exister un projet, pour faire tenir un projet, pour amener quelque chose de viable, qui va persister, qui va durer, il faut qu'il puisse vivre. Pour qu'il puisse vivre, il faut qu'il s'intègre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans. Alors, ou le capitalisme. Il faut dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire. C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi. Là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. D'accord? Tout ça, c'est un idéal qui n'est pas viable. Pas viable, les crises économiques, etc. C'est le capitalisme. On peut bien savoir. On ne partage pas l'argent comme on ne gère pas l'argent comme il faudrait le gérer. D'accord? Donc on est d'accord, c'est la destruction. Pour que ça soit viable, il faut que ça soit quelque chose qui s'intègre dans ce monde. S'intégrer dans ce monde, c'est la symbolique du mariage. C'est le projet avec le pragmatisme, avec la réalité des choses, la concrétisation des choses. C'est la femme. L'homme, il apporte la graine, la femme, il apporte le bébé. Vous comprenez? C'est ça. Et ces sept premiers rois, ce sont sept rois qui n'ont pas su intégrer leur règne dans ce monde. C'était un règne célibataire. C'était des rois célibataires. C'était des sphirotes célibataires qui ne veulent aucune autre. Je veux que de la bonté, que du goura, que du chesed, que du emet. Possible. Pas possible. Il faut s'intégrer dans... Intégrer. Le roi Hadar, quand on dit qu'il était marié, ça veut dire qu'il a su concrétiser son projet de façon réelle. Je veux être un roi, mais je veux être un roi réaliste. C'est ça qu'il a été marié, vous comprenez? Donc quand on dit qu'il était marié, ça veut dire que grâce à elle, il a pu régner. Ça veut dire quoi? Comme dit le Baal HaTorim, ça veut dire que son règne, ce n'était pas seulement l'idéal, c'était une réalité. Quelque chose qui va avec le monde, qui s'intègre dans le monde. Je fais attention aux riches, je fais attention aux pauvres, je respecte tout le monde. Et c'était un roi qui a su gérer ça, donc il a pu établir son royaume. Et c'est pas marqué Vayamot. C'est pas marqué Vayamot. Vous voyez? C'est ça, donc, tout le sens des sept rois et le huitième roi. Eh bien, chers amis, Moshe Rabbeinu, ce qu'il a fait, c'est exactement la même chose. Moshe Rabbeinu, il a construit sept fois le Mishkan, il l'a démonté. C'est-à-dire, ça ne tient pas. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner par là? Qu'est-ce qu'il avait besoin de monter sept fois? Tout le monde dit qu'on n'en parle plus. En fait, quand il les a montés sept fois, il a détruit chaque dimension célibataire. C'est-à-dire qu'il a construit le Mishkan au départ au nom de l'idéal du Chesed, que de l'amour. Il l'a démonté. Il a construit le Mishkan uniquement et seulement célibataire au nom de la Gvura, célibataire. C'est-à-dire je ne tiens rien compte de rien d'autre qu'il y a autour. Dans la Gvura, tu construis le Mishkan dans la Gvura, tu ne peux pas faire venir le bon Dieu. Je construis un Mishkan au nom du Emet, Zoro. Usine à la pointe de son épée.
Il a fait sept essais, on peut dire.
Sept essais.
C'est des essais.
C'est pas des essais.
Comment des essais de l'histoire?
C'est-à-dire qu'il a construit au nom du Mishkan, ça n'a pas tenu. Il a, au nom du Chesed seul, ça n'a pas tenu. Au nom de la Gvoura seul, ça n'a pas tenu. C'est ça l'enseignement. Il faut savoir que tout est dit de façon allusion dans la Torah. Tout est. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe à travers les choses. Si on commence à nous expliquer, pour, ça prend un pasouk dans la Torah, ça. Moi, ça prend peut-être une heure et on peut en parler encore pendant 10 000 ans. D'accord ? Donc, il faut, c'est ça la signification, la symbolique, c'est ça. C'est qu'il a construit chaque Mishkan au nom. Si on veut construire une résidence pour Dieu uniquement au nom du Chesed, ça ne tiendra pas. Si on veut construire une résidence pour Dieu uniquement au nom de la Gvoura, ça va exploser. Au nom du Emet, ça va tous détruire. Donc, voilà, et ainsi de suite pour tous les autres sphirotes. Quand ce sont des sphirotes célibataires, c'est pas possible. Par contre, quand Moshe Rabbeinu, pour la huitième fois, il a construit le Mishkan, mais un Mishkan qui ne soit pas seulement un idéal en l'air, qui ne peut pas être réalisable, mais quelque chose qui s'intègre dans ce monde, alors la Torah nous dit « Vayera aleihem kevod Hashem ». Dieu s'est dévoilé à eux. Et ça fait allusion au huitième roi sur lequel on dit qu'il était marié, donc ça veut dire qu'il a intégré son règne dans ce monde-là. Il a fait des concessions, il a dû se dire « Je suis le roi, mais attention, je n'ai pas tous les pouvoirs, je ne peux pas faire du mal non plus, je ne sais pas parce que j'ai du pouvoir que je vais profiter. » Non, il a adapté son règne, ça a été un règne qui n'est pas mort. Il n'est pas mort. Ce genre de règne-là ne meurt jamais. Ce genre de royaume, le règne, ne meurt jamais. Ce n'est pas marqué Vayamot. Si je veux faire résider à Kadosh Baruch Hu de façon définitive, eh bien, il faut que je fasse intégrer Dieu dans ce monde. Ça veut dire que la notion de Dieu, ce n'est pas uniquement dans le ciel, et moi je suis en relation avec lui dans le ciel, comme le font les petits moines, même s'ils aiment bien le camembert et le petit rouge, d'accord. Mais ce n'est pas pour un caprice des dieux qu'on va les envier, d'accord. On ne va pas les envier pour ça. Mais c'est ça le sens. Où je suis entièrement pour Dieu, et il n'y a que Dieu qui compte, et le reste n'existe plus, ce monde n'existe pas, ça ne peut pas tenir. Si je veux faire résider Dieu dans un Mishkan, dans ce monde matériel, avec de l'or, de l'argent, il y a de tout, hein. Du Nechoshet, du Kivya, le riche, le pauvre. Chacun, il peut, ou physiquement, spirituellement, ou matériellement, ce que vous voulez. D'accord ? Si je fais résider Dieu sur terre, cette notion spirituelle, si on veut qu'elle soit réalisable, il faut l'intégrer dans le monde matériel.
Mais comprendre que la huitième fois, le temple dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire où il y a actuellement, on vit avec toutes ces rois à la fois, mais...
Je ne sais pas si on est arrivé, hein. C'est la notion spirituelle, l'adapter au monde matériel. C'est à nous de faire ça. Ouais. C'est à nous, c'est notre travail.
Mais c'est quoi un sanctuaire de chesed pur, comme Moshe a été pour la première fois, du coup, il a fait du chesed pur.
Non, ça veut dire faire avoir une relation avec Dieu, le spirituel, que Chesed, que amour. Ben, ils ont essayé. Alors, au départ, ça allait, et après, il y a eu l'annulation des lois. Vous savez que les chrétiens, au départ, ils faisaient la Torah. Ils faisaient la Torah. Ils étaient dans la synagogue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu impossible. Alors, il y a eu Paul. Paul, sur lequel il y a un grand mystère sur Paul. Paul. C'est là qu'il dit, il s'appelait Shaoul, qui était un chaliard du Bédine. Vous connaissez ça, vous avez lu ça. C'était un chaliard du Bédine pour dire où avec nous, où vous sortez. D'accord. Donc on fait lui-même. Il a annoncé l'annulation des lois. Fini. Il n'y a plus de loi. On n'est plus tenu par aucune mitzvah de la Torah. D'accord. Donc, une fois qu'ils ont intégré ça, ils ont quitté les synagogues. Fini. Il n'y a plus possibilité de vivre ensemble. Ça s'appelle l'annulation de la loi. D'accord ? Chez eux, ça s'appelle... Ils ont annulé la loi. Bon. Et il y en a qui disent, c'est ça qu'il est... Ce Paul, il s'agit de Shaoul, qui a été envoyé pour qu'il y ait une scission... Donc, ça a arrêté le ravage, quoi. Bon, il y avait un mur. À ce moment-là, c'est fini. Non, moi, Shabbat, c'est Shabbat, Kashrout, c'est Kashrout. Donc, eux, ils ont annulé tout ça. Transformés à leur manière, ils ont calqué, ils ont arrangé, comme on connaît, comme on sait. D'accord ? Mais en tous les cas, c'est ça, la notion d'amour, relation envers Dieu, spirituelle, dans l'amour. Ça donne quoi ? Que l'on connaît aujourd'hui. Mariage mixte, homosexuel, on s'aime. on va s'aimer. Un bateau, sur une coccinelle, je ne sais pas quoi, un dauphine. En tout cas, on va s'aimer. Là, ça part en cacahuète complètement. L'amour, d'accord ? C'est ça qui... Or le ahava, l'amour, le chesed, la bonté, c'est quelque chose qui doit être quelque chose qui se réalise dans un projet. Soit qu'on se marie pour que notre amour il puisse se réaliser de façon concrète et qui dure. Ça, c'est la gdusha du makom. C'est-à-dire une notion spirituelle que je réalise dans le monde matériel. La même chose, la justice. La justice, si ça reste, ma relation envers Dieu, c'est uniquement la justice. Ben non, je vais tuer tout le monde, je vais décapiter tout le monde. C'est ça. Et c'est ça, l'autre religion. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu ? Il a fait des tests avec les autres religions, si vous voulez. Il a fait des tests avec les autres religions. Les Tibétains, c'est le Hémet. Eux, la loi principale, c'est la vérité. L'idéologie, c'est la vérité. Chez les bouddhistes. Les bouddhistes, d'accord, c'est la vérité. C'est la base. Quand vous allez leur parler, lisez des trucs, là, la base, c'est la vérité. C'est pas l'amour, c'est pas la justice, c'est la vérité. D'accord ? Quand c'est que ça, ça tient pas. Et Moshe Rabbeinu, il a fait des tests, il a montré au peuple d'Israël. Vous voulez sur l'amour ? Regardez, ça s'écroule. Vous voulez sur la justice ? Ça tient pas. La seule chose qu'il faut faire, c'est intégrer dans ce monde. L'intégrer dans ce monde. C'est le mariage, le yud avec le he. C'est l'idée avec la réalisation féminine dans ce monde. Ça, c'est pour ça que c'est marqué Vayi, Vayom, Hashemi. D'accord ? C'est pour faire correspondre que c'était la huitième reconstruction du Mishkan qui est comparable à celle au règne du roi qui a tenu cette fois-ci parce qu'il a su, parce qu'il s'est marié, donc c'est-à-dire son projet a pu se concrétiser avec quelque chose de pragmatique, d'accord ? Avec quelque chose qui s'adapte dans la vie de tous les jours, dans le monde matériel. Et c'est ça que notre travail à nous, Rabotai, c'est ça. Notre travail à nous, pour qu'on est venu sur Terre, c'est pour être Mekadesh le Zman, être Mekadesh le Makom. Être Mekadesh le Makom, ça veut dire, avec tout ce que j'ai, avec un ordinateur, avec une paire de lunettes, avec tout ce que j'ai, on a parlé une fois, on a développé ça bien comme il faut un chiot, d'accord ? Essayer de dire, voilà, c'est Ma'an Hashem, tout ça que je sais pour, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Si je vais travailler comme un fou et je vais chercher de l'argent où je peux le gagner, d'accord, c'est pas pour remplir un compte en banque et me sentir bien solide, blindé. C'est pour essayer de mieux vivre et faire passer ma Torah et mon message de Torah dans le plaisir, dans la joie, dans le bonheur. C'est ça la Torah. C'est le bonheur, la joie de vivre dans un monde matériel, d'accord, avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a qui est tellement important, qui est tellement précieux, avec ce qu'on a de matériel, s'en servir à fond. C'est tout notre but pour qu'on est dans ce monde. Sinon, on reviendra. Et on réparera encore avec d'autres souffrances et d'autres trucs. Et on reviendra jusqu'à ce qu'on répare ce makom. On répare ce makom. C'est notre... Je donne un exemple. La guerre. On sait ce que c'est, malheureusement, la guerre. D'accord ? La guerre. On part en guerre, c'est pas pour jouer de la flûte. On part en guerre, c'est pour... On est prêt à tuer, à massacrer, on est prêt à... Devant nous, à descendre quelqu'un. C'est ça, la guerre. D'accord ? C'est terrible, c'est cruel. Mais la Torah nous dit, attention, quand tu pars en guerre, dans tes ustensiles, tes armes, parmi tes ustensiles de guerre, n'oublie pas une petite pioche. Une pioche. Avec la pioche. Pourquoi ? Parce que lorsque tu vas, tu quittes le Mahané pour aller aux toilettes, ça va ? Mais une fois que tu as fini, ne laisse pas ta crotte dehors. Parce que quand tu laisses ta crotte dehors, c'est un endroit où on ne peut pas le remplir de gdoucha. On ne peut pas faire de bracha, faire de gdoucha, faire de minyan. Prends une petite pioche, creuse. N'oublie pas que tu es un homme. N'oublie pas que tu es rattaché au spirituel. Tu es en pleine guerre, prêt à massacrer hommes, femmes et enfants. Prêt. D'accord ? Bien, n'oublie pas que tu es un homme qui a le devoir de remplir le monde de Gdoucha. Et avec ce que tu laisses, tu peux pas remplir le monde de Gdoucha. C'est un exemple que je vous donne. Et cette graine-là, cette graine de mitzvah, de petite pioche, elle a donné quelques milliers d'années plus tard, une armée, il faut le dire, une armée qui est capable de dire, voilà la cible au pilote, tirez, mais attention, si vous voyez un enfant, si vous voyez une femme, si vous voyez quelque chose, quoi que ce soit, c'est la seule armée au monde qui peut le prouver. La graine. La graine, elle est rentrée dans le monde matériel. Et, non, je vous dis, c'était haute voltige ce soir. Vous me suivez ? Vous me suivez ? D'accord ? Donc c'est ça. Pour vous dire, n'oublie pas que tu es à la guerre, tu vas tuer, tu vas massacrer, tu vas même semer la terreur, parce que si tu ne sèmes pas la terreur, tu as perdu la guerre. Tu vas être un terroriste, mais n'oublie pas que tu es un homme. N'oublie pas que tu es un homme. Et pour ça, un homme qui doit remplir le monde de Gdoucha, n'oublie pas, ça reste attaché à ça. Ça donne, des milliers d'années plus tard, une armée, la seule armée. Eux, ils parlent de leur convention de Genève. Qui la respecte, cette convention de Genève ? C'est de la guignolerie, c'est de la ricanerie, ça. Une convention de Genève, qui la respecte ? Personne ne la respecte. Les seuls qui peuvent dire, c'est la convention de la Torah. Cette petite graine-là qui dit, tu es à la guerre, n'oublie pas que tu es un homme. Et eux peuvent le prouver. Bien qu'ils n'ont pas voulu qu'on enquête. Ils ont quand même donné, ils ont participé à l'enquête. Vous savez ça. D'accord ? Ils n'ont pas voulu qu'on enquête sur eux, mais ils ont dit, nous avons quand même participé à l'enquête. Ils ont donné des preuves, des enregistrements et tout, comme quoi le pilote refusait de tirer. C'est l'ordre qu'ils avaient. Vous tirez quand vous pensez que vous tirez. Si vous jugez que ce n'est pas possible, humainement pas possible, ne tirez pas. Et plusieurs fois, des enregistrements pendant les missions qui disent non, je ne fais pas. Je reviens.
Quand ils veulent m'envoyer quelque part, ils envoient des traces, ils envoient des SMS à tout le monde.
C'est fini ça, c'est fini. Où c'est ça. D'où ça vient, Rabotai ? D'où ça vient qu'un peuple, parmi tous les peuples, d'où ça vient qu'un peuple, il lui arrive de faire cette folie-là, de prévenir avant ou de refuser la mission ? Vous savez que quand un pilote, il refuse la mission, ça sauve, c'est une trahison, c'est... D'accord, hein?
Oui.
En Israël, ils avaient l'ordre de ne pas tirer en cas où ils jugeaient, où les pilotes jugeaient. Et ça, c'est vérifiable. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, avoir un projet et le réaliser dans un monde matériel. Avoir la spiritualité, c'est le mariage entre Shamaïm et Arès. C'est le mariage entre Shamaïm et Arès. C'est ça quand on dit que le 8e mois, il était marié. Ça veut dire. C'est que tout homme, pour réaliser un progrès viable, il faut pour le réaliser. Tu as l'idée, il faut aussi de quoi former ce projet. Comme un enfant qui va naître. Il y a la graine et il y a la formation. La graine, c'est l'homme qui la porte, la formation, c'est la femme qui le réalise. Voilà, c'est ça. Vous comprenez ? Toute la kavana. Et ce que je dis, Rabotai, je vais le prouver. Purement et simplement, avec... Je ne vais pas être très long, vous allez voir, on a dit qu'on pouvait terminer... Vous m'excuserez, je vais essayer de tenir ce que j'ai dit, mais pas trop longtemps. Regardez. Vous avez bien compris ça. Bien, regardez le rapport qu'il y a tout de suite avec la mort des deux enfants de Aaron. Et avec la cache-route qui suit. Avec la cache-route qui suit. Pourquoi la cache-route, les lois de la cache-route. Vous allez comprendre tout de suite. Vous allez voir. Vous allez voler en l'air. La mort de Nadav et Abihu, c'est quoi ça? La mort de Nadav et Abihu, regardez, Parashat. On retourne par Shachmini, on sort des Sodot à Torah, on revient dans le texte. Regardez ce qui est dit. Qui est dit, Batet se Esh Milifne Hashem. Vaïkrou, vous avez Perek Yud, page 269. Perek Yud, Pasuk Aleph. Vaïkrou, Bene Aaron. Page 269. Vaïkrou bene Aaron Nadav Abihu. L'année dernière, on avait expliqué Nadav Abihu. Il est le père. Ouais. Le père et le fils, c'est l'amour. Nadav, c'est l'amour. L'amour, le père et le fils, c'est tout ça. D'accord ? Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ish Martato, chacun a pris son encensoir. Vaïtnou ben Esh, ils ont mis le Esh, ils ont mis le feu. Vous voyez ? Le Esh, il manque le Yud, il manque le E. C'est pour ça qu'il y avait un Esh qui va sortir et qui va les tuer. Il manque le Yud, il manque le Hé. C'est-à-dire, un projet qui n'est pas réalisable. Il ne reste plus rien. Il ne reste que le Hesh, si vous voulez. Vaya Simu Alea Ketoret. Ils ont mis la Ketoret. Vaya Kribu Lifne Hashem. Ils l'ont apporté dans Hashem. Hesh Zara. Un feu étranger. Regardez. Asher Lotziva Otam. Que Dieu n'a pas ordonné. C'est l'annulation de la loi. On avait expliqué ça. L'année dernière, ça a été le Shur. Je ne sais pas si vous vous rappelez. D'accord ? Asher Lotziba Otam, qui n'a pas ordonné. Ils ont apporté un feu que Dieu n'a pas dit de faire. Ils ont allumé un feu avec des allumettes. Qu'est-ce que vous avez dit de faire ça? Ils ont allumé, ils ont fait une tourette à eux. Ils l'ont apporté. Tout de suite, un feu est sorti et les a consumés. Ils sont morts devant Hachem. D'accord? Pourquoi Nadav et Abihu sont morts à Botan? On dit oui, parce qu'ils étaient célibataires. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient célibataires? Nous maintenant, on sait ce que ça veut dire. C'est ça. Ça veut dire aimer Dieu en dehors du Makom. Le Makom ne vaut plus rien. L'endroit, le monde matériel ne vaut plus rien. Ils étaient arrivés à un niveau, ils ont dépassé Aaron ou Moshe. Au niveau de la proximité de Dieu, ils ont dépassé Aaron ou Moshe. D'ailleurs, Moshe va dire à Aaron, je pensais que Dieu allait se manifester à qui nous cherchait, moi ou toi. Je pensais. Mais je vois que c'est plus grand que moi, que nous qui ont fait un qui nous cherchait. Ils sont allés trop haut devant le ciel, ils ont quitté le Makom. Or, quitter le Makom, ce jour-là, c'était nier toute la valeur de ce jour. C'était le jour de la Chanukah Tamizbehar, ça. On est d'accord? C'est le jour où on va montrer que tout le projet de Dieu, c'est quoi? C'est dans le monde. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se séparer du monde. Mais alors, c'est tout à fait contraire à ce que je veux. Mais qu'est-ce que... Vous allez au contraire. Vous êtes en train de faire tout le contraire de ce que je veux faire, moi. C'est d'apporter Dieu dans ce monde. Vayera Elav, Vayera Kevod Hashem El Kolaam. Dieu se dévoile à tout le peuple. C'est ça que je veux, moi. C'est en bas. Je veux résider en bas. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous quittez ce monde. Ce monde matériel ne vaut rien. On peut le jeter. Et moi, je veux uniquement m'attacher à Dieu. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils sont morts. Et c'est ça, pour ça qu'on dit qu'ils n'étaient pas mariés. Dans ce sens-là. Vous voyez, ils n'avaient pas de quoi réaliser. C'est quelque chose qui ne se réalise pas, qui ne veut pas continuer, qui ne veut pas durer. On n'est pas des anges, on est des hommes. D'accord? Et un homme ne peut développer sa spiritualité qu'à travers le monde matériel. Voilà. Il peut réaliser sa spiritualité uniquement dans le monde matériel. C'est pour ça qu'ils sont morts. Et regardez Rachid, ce que Rachid nous dit. Rachid Gimel. Écoutez bien, ceux qui l'ont en face des yeux, le lit bien. Ceux qui l'ont pas en face des yeux, qui m'écoutent bien. Amarle Moshe le Aaron. Regardez bien. Écoutez bien. Moshe dit à Aaron. Aaron, mon frère, c'est après la mort des deux. Nadav et Abihu. Aaron, mon frère. Yodea Haïti, Shid Kadesh, Abaïd, Bimiudaav. Je savais qu'un jour, Akash Boku allait se manifester par des gens qu'il aime beaucoup. Qu'il allait les punir très fort. Je savais. Par des gens qui sont très proches de lui. Je savais ça. D'accord? Je savais qu'il allait se manifester ceux qui sont très proches, Shel Makom. C'est le mot Makom ici. Les Miudaav Shel Makom. Ceux qui sont proches de Dieu. Ici, Rashi rapporte le nom de Dieu, pas Hachem, pas Elohim, mais Makom. Pourquoi est-ce que Rashi rapporte ici le nom de Dieu de Makom? Ceux qui sont proches de Dieu, il a dit ceux qui Miudaav Shel Makom. Proche de Dieu, il n'a pas dit Miudaav Shel Hachem. Miudaav Shel Elohim. Miudaav Shel Makom. C'est pour bien nous mettre le doigt, Rachid dit ça, pour nous mettre le doigt que tout le problème ici, c'était qu'aujourd'hui, c'était le Dieu du Makom. C'est le Dieu de l'espace, le Dieu du Makom. Vous voyez? C'est ça la trace de Rachid. Vaïti savoure, je pensais, Obi Obar, ou moi ou toi, je pensais. Arshav, Roé et Ani, maintenant je vois, Shehem, Gdolim, Imeni, ou Memra, que les deux, Nadav et Abihu sont plus grands que moi. Qu'est-ce sont plus grands que moi? Alors, s'ils sont plus grands, pourquoi ils sont morts? Seulement, ça veut dire quoi? Ils se sont élevés, ils se sont approchés plus que moi. Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut? Pas du tout. Et c'est pour ça qu'ils ont été punis. Parce que ce jour-là, un autre jour, peut-être, ça serait passé. Bravo, vous êtes forts. Allez, maintenant, retournez à la maison. Ça aurait pu se passer comme ça, d'accord? L'inauguration du Mishkan qui est justement la descente de Dieu dans ce monde, la résidence de Dieu dans ce monde. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un acte qu'ils vont quitter ce monde pour Dieu. C'est pas ça. Vous voyez? Et c'est pour ça que Rachid nous dit, ce sont les amis du Makom. Dieu a... Vous voyez? Miudaav Shel Makom. On est vraiment ami de Dieu que si on est dans le Makom, si on est dans l'espace. dans l'espace-temps. On doit sanctifier et le temps et l'espace. Deuxième preuve pour confirmer ce qu'on a dit, la cacheroute. Regardez une page suivante, page 271. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe, Ve'el Aaron les morts, Alehem. Dieu dit à Moshe et à Aaron pour leur dire Daberou el Bene Israël et d'ailleurs toutes les lois de la cacheroute. Dites-moi, chers amis, depuis quand pour les mitzvot, elles passent par Moshe et Aaron, toutes les mitzvot de la Torah, c'est Vaïdaber Hachem el Moshe. Tu as dit à Moshe, dis au Bene Israël, et voilà, et voilà, et voilà. D'accord ? Là, exceptionnellement, on prend Aaron, on le met avec Moshe. Vaïdaber Hachem el Moshe, et el Aaron, et les lois de la cacheroute qui suivent. Comment ça se met ?
Oui. Oui. Aaron.
Si. Il a parlé plusieurs fois à Aaron. Bien sûr. En Mitzrayim, il a parlé ici aussi, il a parlé plusieurs fois. Mais pour transmettre une mitzvah, pour transmettre les mitzvot, c'est Moshe qui transmettait. On ne va pas marquer Moshe ve Aaron. Même ici, oui. Comment ça se fait? Regardez. Rashi nous dit, Rashi répond à cette question. Rashi, Pasuk Bet, Daberu el Bene Israël. Parlez au Bnei Israël. Qui parlait? Moshe et Aaron. Et kula mishve liyot shluchim bediburze. Il les a mis à égalité. Il a mis Moshe et Aaron à égalité. Les fiches et ushvu bidmehem bedvima. Parce que les deux, et l'oncle et le père, se sont tus au moment où Nadav et Abihu sont morts. Ve kiblu alehem et ils ont pris sur eux, ils ont accepté sur eux Xerata Makom, le décret de Dieu, mais Ahava avec amour. Et là encore une fois, c'est marqué Makom, Rachid. Regardez la profondeur de Rachid. On ne peut pas expliquer la Torah sans Rachid. Mais ça, il faut savoir le lire. Et encore une fois, nous voyons que Rachid nous dit que pourquoi est-ce que Aaron a mérité de transmettre cette mitzvah avec Moshe? Parce qu'on était tout de suite après la mort de Nadav et Abihu. Il avait un grand mérite. Les deux ont été aussi grands, les deux. Moshe et Aaron, l'oncle et le père, qui ont accepté Bidmima. Ils se sont tus. Non, c'est-à-dire qu'ils se sont tus. Pas pleurer, ils sont restés dignes. Pas effondrés. Pas effondrés. D'accord ? Ils ont gardé, si vous voulez, l'esprit de la journée. Ils ont gardé l'esprit de la journée en disant prenez les deux corps, la simcha continue. Comme Rachid expliquera par la suite. La simcha continue. On est à l'inauguration du Mishkan aujourd'hui. Je veux que la simcha continue. Et Aaron a dit exactement la même chose. C'est un jour trop important pour qu'on tombe et qu'on s'effondre. C'est trop important. C'était une force extraordinaire, exceptionnelle. Et c'est pour ça qu'ils ont mérité tout de suite après la Mishkan qui suit, c'est celle de la Kashrut. D'accord ?
Ils auraient pu faire la même chose que leurs enfants. C'est-à-dire, en fait, s'ils s'étaient apitoyés et pleurés.
Voilà.
Ils auraient été dans le sens plutôt de Nadav et Abihu,
ils n'ont pas dans le sens de... Tout à fait, oui. Oui, ce serait associé à leur mort. Tout à fait. Alors là, il fallait justement prouver le contraire, que c'est pas ça, la Avodat Hashem. C'est pas quitter ce monde et vivre dans un fantasme, vivre dans comme ça. Non, c'est d'être bon. Aimer ce qu'il faut aimer. D'accord ? Bien. Pas le fantasme. Ça, la bouteille. Et regardez la première notion de Kashrut. C'est quoi? Je vous le dis comme ça, rapidement. Ma freset parsa veshosat shesa perasot. On nous dit qu'il faut que le sabot, si c'est en un seul doigt, c'est très fort. Tamé, pardon, c'est tamé. Pas caché. Il faut que le sabot soit fendu. Chasua shesa perasot. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique. Il faut que ça soit fendu d'en haut jusqu'en bas où ça touche la terre. Comme ça, Rachid nous dit. Parous, alors que ça veut dire fendu? Fendu, ça veut dire la possibilité de prendre. D'accord? D'attraper, de saisir. Quand c'est fendu, quand c'est un seul bloc, on ne peut rien faire. Quand c'est déjà fendu, on peut déjà attraper quelque chose. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire que la parsa, elle doit être chassoua, elle doit être fendue, milmata, milmala, adlemata, comme dit Rachid. Milma, on n'a pas le temps de voir tout. Milemata adlemata. Milemala adlemata. Il faut que ce soit la prise. Il faut qu'elle soit possible autant en haut qu'en bas. Ce que je prends en haut, je dois prendre en bas. Ce que je prends en bas, je dois prendre en haut. C'est ensemble, c'est Shamaïm Vaharet. C'est ça la pirsa, la fente qu'il y a dans le sabot, dans la une possibilité de prise, de prendre quelque chose, autant en haut qu'en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire autant dans le Shamaïm que dans Haaretz. C'est ça, Siman de Kedusha, de Tehora. C'est ça, Siman de Tehora. Une bête Tehora, c'est ça. À travers ce Siman, nous voyons qu'est-ce que ça veut dire. Fendu d'en haut jusqu'en bas qui touche la terre. En haut, c'est le ciel. En bas, c'est la terre. C'est une chose. Deuxième Siman de Tahara, c'est ruminant. Ma'ale Gera. Rachidi, avaler l'aliment, bien, laver l'aliment, le réchauffer, le ressortir de son estomac, et le mâcher et le rendre très fin, dac, comme ça Rachid. Et enfin, là, tu l'intègres. C'est quoi ça? C'est, alors maintenant, puisque la Torah te dit, tu dois rentrer dans ce monde avec la spiritualité, comment aborder ce monde? Alors, puisque ce monde est ouvert, on t'ouvre le monde, ça veut dire. On t'ouvre les plaisirs, on t'ouvre le bonheur, on t'ouvre la matière, on te l'ouvre, on te jette dedans. Attention, si on te jette dedans, sois ma'ale Gera, mâche bien. Je ne dirais pas le contraire que quand on n'en mâche pas bien, c'est catastrophique. D'accord? Bah oui, un glouton, un goinfre, il avale. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a le plaisir de mettre la première fois, et la première fois, il n'a pas le temps de mâcher. Vous comprenez? Par contre, que quelqu'un qui a une certaine distance avec le monde matériel, c'est quelqu'un qui mâche bien, qui prend le temps de mâcher, moudre ses aliments, pour qu'il soit bien intégré dans le corps, sinon il ne s'intègre pas bien dans le corps. Vous comprenez? Et c'est exactement ça, ce que le deuxième siman. Maintenant, quand t'as ouvert le Olam Hazeh, t'as bien ouvert, alors fais-le avec réflexion, sois posé, calcule bien chaque chose, où elle mène, où elle t'amène, les considérations, tes enfants, ta femme, tout ce qu'il y a autour de toi, tes amis, etc. Sache que tu es intégré dans un monde. Et tu dois bien dissoudre toutes ces choses-là, le dissoudre bien comme il faut, et bien l'intégrer. Et là, on a les deux simanim de Tahara. Voilà, Rabotai, toute la notion du Mishkan, c'est justement celle de faire descendre Dieu dans le monde, et pas le retirer de ce monde, parce que là, ça donne un davavu. Et simané Tahara, c'est ça. Bayom HaShemini, c'est ça, Bayom HaShemini. La Yom HaShemini, si vous voulez, c'est la huitième Sphira qui n'existe pas, d'accord? Mais c'est les Sphirot ensemble qui sont réalisées dans ce monde. C'est ça qui permet, c'est ça tout le sens de nos jours, si vous voulez, le sens de la construction et l'inauguration du Mishkan. Voilà, chers amis. Intègre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans. Alors, ou le capitalisme, il faut dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi, là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Aigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans. Alors, ou le capitalisme, il faut dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi, là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Aigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans. Alors, ou le capitalisme, il faut dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi. Là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Aigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans.
communisme.
Alors, ou le capitalisme. Il faut dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme et puis les pauvres, on n'en a rien à faire. C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi. Là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Maigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans. Alors, ou le capitalisme. Il faut dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme et puis les pauvres, on n'en a rien à faire. C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi. Là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Maigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans.
Communisme.
Alors, ou le capitalisme. Il faut dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire. C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi. Là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Maigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans.
Communisme.
Alors, ou le capitalisme. Il faut dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire. C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi. Là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Maigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans.
Communisme.
Alors, ou le capitalisme. Il faut dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire. C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi. Là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Maigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans.
Communisme.
Alors, ou le capitalisme. Il faut dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire. C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi. Là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Maigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans.
Communisme.
Alors, ou le capitalisme. Il faut dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire. C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi. Là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Maigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans.
Communisme.
Alors, ou le capitalisme. Il faut dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire. C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi. Là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Maigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans.
Communisme.
Alors, ou le capitalisme. Il faut dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire. C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi. Là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Maigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans.
Communisme.
Alors, ou le capitalisme. Il faut dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi, là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Aigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans. Alors, ou le capitalisme, c'est-à-dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi, là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Aigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans. Alors, ou le capitalisme, c'est-à-dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi, là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Aigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans. Alors, ou le capitalisme, c'est-à-dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi, là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Aigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans. Alors, ou le capitalisme, c'est-à-dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi, là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Aigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans. Alors, ou le capitalisme, c'est-à-dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi, là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Aigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans. Alors, ou le capitalisme, c'est-à-dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi, là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Aigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans. Alors, ou le capitalisme, c'est-à-dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi, là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches. Aigre dans le monde. Ce monsieur-là, Hadar, eh bien, quand il a régné, il a basé son règne sur une réalité, pas sur un idéal. Il y en a qui basent leur règne sur un idéal, c'est des tyrans. Alors, ou le capitalisme, c'est-à-dire la vérité. Ou alors l'idéal, c'est le capitalisme, et puis les pauvres, on n'en a rien à faire, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental. Ou alors le communisme, qui disparaît lui aussi, là, on s'attaque aux riches. On ne veut pas de riches.